Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle fin de semaine. On va passer, nous, un excellent 60 minutes, puisqu'à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez Bellemare Avocat. Maître Bellemare, bonsoir.
Allô, ça va bien?
Ben oui, vous avez fait beaucoup jaser en fin de semaine, et ce matin, je me suis fait apostropher à cause de vous dans le portique de la station. Une dame qui a dit « Là, est-ce que tu vas parler de Jacques Delisle avec Maître Bellemare ce soir? » Je dis « Je vous le promets, madame, c'est sûr que ça va se faire. » Donc, salutations à cette dame-là qui doit être à l'écoute. Elle avait de l'air très, très, très sympathique. Mais vous faites jaser, Maître Bellemare, parce que là, vous êtes persuadé, vous, que... Juge Delisle, il y a peut-être une petite passe-droit que tout citoyen normaux n'aurait peut-être pas eu.
Ben, je suis persuadé du fait que le ministre de la Justice du Canada, qui a décidé d'ordonner un nouveau procès, a été influencé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, puis je pense que la plupart des citoyens sont sur la même longueur d'onde, c'est de savoir qui l'a influencé. Parce que en entrevue hier avec Yves Boisvert du journal La Presse à Montréal, M. Lametti, ministre de la Justice, en 2021, qui a ordonné un nouveau procès dans l'affaire Delisle, disait qu'il avait consulté, qu'il avait eu recours à des experts, certains même à l'extérieur du Québec. Certainement qu'il a eu recours à des experts, mais lesquels? Qui l'a influencé? Parce que un cabinet ministériel, Yannick, là, c'est pas comme une cour de justice. Là. Une cour de justice, là, il n'y a personne qui va s'adresser à un juge de la cour d'appel qui va dire « Hey, salut, Ticoun, juge de la cour d'appel ou juge de la cour supérieure, c'est moi, puis Delisle, c'est un bon gars, puis tu devrais l'acquitter. » Puis non. Les cours de justice sont assortis là, d'un processus extrêmement rigoureux. Indépendance, impartialité, des règles de pratique, les avocats, c'est un système qui est hermétique et qui vise à nous assurer que les éléments de preuve, les influences proviendront des avocats qui plaident la cause, qui peuvent tenter d'influencer le juge, mais c'est pas n'importe quel quidam qui va prendre le téléphone ou qui va demander une rencontre et qui va commencer à essayer d'influencer le tribunal. Un cabinet ministériel, c'est très différent. Parce que le ministre, il y a du personnel, il choisit qui il va rencontrer, mais il est perméable, en ce sens qu'il est vulnérable, il est susceptible, le ministre, d'être influencé et d'être abordé par des gens qui auraient intérêt à ce que Jacques Delisle puisse obtenir un nouveau procès ou qu'il puisse obtenir un certain traitement de faveur. Et parce que le ministre de la Justice a le droit d'ordonner un nouveau procès et de faire table rase, finalement, de toutes les condamnations antérieures, que ce soit de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, de la Cour suprême, ce qui était le cas dans le cas de juge Delisle, parce que depuis 2012, il avait été condamné pour un meurtre prémédité. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je disais, dans cette lettre ouverte en fin de semaine, que je souhaitais que la Chambre des communes, qui est un comité de la justice, la Chambre des communes, des élus, puisse assigner le ministre, l'ex-ministre David Lametti, pour y poser des questions. Qui avez-vous consulté avant de rendre votre décision à l'effet qu'il y aura un nouveau procès? Parce que nous savons que le comité d'experts, qui est le groupe de revision des condamnations criminelles, le GRCC, un groupe d'experts du ministère de la Justice, a dit qu'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire. Alors, il a pris ça où, le ministre Lametti, l'erreur judiciaire, si son comité d'experts dit qu'il n'y en a pas eu?
Je regarde.
C'est ça la question.
Oui, bien effectivement, puis vous n'êtes pas le seul. Il y a énormément d'avocats qui se posent des questions par rapport à ça. Puis je regarde le directeur des poursuites criminelles et pénales, Maître Patrick Michel, qui a eu une citation aussi concernant l'ex-juge Delisle. On n'est pas loin de 10 sur 10 au niveau de l'incompréhension. Nous, à la lecture du rapport, on ne voyait pas ce qui n'était pas déjà disponible lors du premier procès pour justifier la décision du ministre. Ce qui est particulier, Maître Bellemare, puis peut-être que vous saurez éclairer là où je suis complètement dans la noirceur, on m'a déjà dit que le ministre, une fois sa décision rendue, il n'y avait pas à s'expliquer du pourquoi et du comment. Il peut pas nécessairement avoir de problème par rapport à sa décision-là d'annuler un procès. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est pas tout à fait vrai?
C'est-à-dire que la loi ne prévoit pas que la décision du ministre de la Justice, qui consiste à reviser les condamnations pour meurtre, comme c'est le cas de l'ex-juge de Lille. Le code criminel, à 696.1, l'article pertinent, ne prévoit pas que le ministre doit motiver sa décision. C'est
voilà.
Vrai.
Okay.
La question, même si juridiquement le ministre n'est pas tenu de justifier sa décision, moi, j'ai eu confiance au ministre Lametti quand j'ai su en 2021, parce qu'il y a un communiqué de presse qui a été émis du ministre qui disait « Je revise la condamnation pour meurtre. J'estime qu'il y a eu erreur judiciaire. J'ai consulté le comité, le groupe de révision. Il y a eu des experts qui ont été consultés dans 3 provinces canadiennes. Je revise parce qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu erreur judiciaire. » Écoute, moi, je suis dans mon bureau, j'entends ça. J'ai pas de raison de douter de ce que le ministre Lametti nous dit quand il nous dit qu'il y a eu erreur judiciaire parce qu'on n'a aucun document pour le confronter. On n'a aucune information susceptible de remettre en cause sa décision. Et on pense que de bonne foi, professionnellement, c'est quand même un ministre de la Justice, c'est un gars qui a un parcours juridique impressionnant, il est diplômé de quantité d'universités, c'est un ex-professeur de l'Université McGill en droit, il est compétent. Alors, moi, j'ai pas tendance à me méfier de ce gars-là et je me dis, il a raison certainement, il y a eu erreur judiciaire et il a certainement des éléments qui permettent d'en arriver à cette conclusion-là. Ça, c'est ce que j'ai pensé jusqu'à jeudi dernier. Parce que jeudi dernier, quand l'ex-juge Delisle a plaidé coupable à homicide involontaire coupable, le rapport sur lequel le ministre de la Justice fédérale, David Lametti, disait s'appuyer, a été rendu public. Et là, tout le monde est tombé en bas de sa chaise parce que ce rapport-là, d'experts du ministre de la Justice du Canada, dit qu'il n'y a pas eu erreur judiciaire, dit que s'il y a eu des erreurs dans le processus de justice criminelle, c'est bien les erreurs du juge Delisle, de l'ex-juge Delisle, qui a choisi de ne pas témoigner, ce qui était en soi, je pense bien, une mauvaise décision, qui n'a pas présenté toutes les preuves d'experts qu'il aurait pu présenter et qui étaient disponibles et accessibles à l'époque. Il a choisi de ne pas présenter plusieurs expertises qu'il a décidé des années plus tard d'invoquer, mais il était trop tard, le verdict avait été rendu. Alors, si erreur il y a eu, ce sont des erreurs de planification et de stratégie de Jacques Delisle dans le cadre de son procès. Il n'y a pas eu d'erreur judiciaire du système. On n'a pas de nouveaux témoins qui ont changé leur version. On n'a pas de manipulation de la preuve par les services policiers. Je te le dis parce que ça a déjà servi d'argument pour d'autres révisions de condamnation. Ici, on n'a strictement rien pour justifier un nouveau procès.
Okay.
Alors, quand on a pris connaissance de ce nouveau rapport-là, on s'est dit, mais il y avait quoi, David Lametti, le ministre de la Justice du Canada, pour rendre sa décision de reviser? Il a fait ça sur un coup de dé.
Oui, mais ma
il
question...
Il a fait ça parce qu'il y a eu d'autres influences.
Ben,
alors, c'est ça la grande question aujourd'hui.
Ma prochaine question pourrait être effectivement orientée vers là, Maître Bellemare, parce que, bon, il y avait le rapport, oui. On sait maintenant que dans le rapport, il n'y avait rien de nouveau que ce qu'on a entendu dans le premier procès. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une influence indue de l'externe? Est-ce qu'on aurait pu discuter, puis là, c'est hypothétique, mais est-ce que Lametti aurait pu, en tant que ministre de la Justice, discuter avec l'avocat de la défense, Jacques Larochelle, concernant le dossier, à savoir s'il n'y avait pas eu des éléments de preuve nouveaux qui étaient arrivés, ou est-ce qu'on aurait pu discuter avec quelqu'un de la famille ou peut-être un ami proche de l'ex-juge de Lille? Est-ce que quelqu'un comme ça peut tenter d'influencer un ministre? Puis si oui, est-ce que le ministre...
Bien sûr. Peut...
Ah oui?
Non, mais c'est sûr. Ben oui, parce que le ministre de la Justice, précisément parce qu'il n'a pas à rendre compte de sa décision, le processus d'accès à un ministre. Moi, j'ai jamais eu autant d'amis que quand j'étais ministre de la Justice. Yannick, quand t'es ministre de la Justice, ça sonne à tour de bras, tout le monde veut te parler. Puis la grande question qui se pose quand un ministre de la Justice est nommé, si tu veux être nommé juge, si tu veux avoir des permis, si tu veux être sur des comités, si tu veux faire changer des lois, la première chose, c'est de savoir, connais-tu le ministre? As-tu des contacts? On essaie d'avoir accès au ministre. Et il y a un cabinet, un chef de cabinet, des conseillers du ministre, mais ce n'est pas une cour de justice. Alors, tout le monde y a accès. Alors, est-ce qu'il y a eu des influences de la part de certains avocats? Est-ce qu'il y a eu des influences de la part de certains membres influents du Parti libéral du Canada? Parce que le ministre demeure un élu sur la scène fédérale. C'est un député, fondamentalement, qui a été élu par des citoyens. Alors, il est nommé ministre sur discrétion du premier ministre Justin Trudeau. Alors, est-ce qu'il y a eu des influences? Est-ce qu'il y a eu des appels? Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des gens, des personnes influentes du Parti libéral du Canada, des non-élus, des anciens députés, des anciens premiers ministres libéraux, des anciens juges qui auraient de la sympathie pour Jacques Delisle et qui auraient souhaité que la décision du ministre soit favorable et qu'il y ait une révision de la condamnation? C'est tout ça qui m'intéresse, moi, personnellement, parce que je veux m'assurer qu'il n'y a pas eu d'influence indue auprès du ministre Lametti qui aurait mené à cette décision étonnante, parce que avant jeudi dernier, on la pensait fondée sur la base du comité d'experts, du groupe de révision. Maintenant qu'on sait que le groupe de révision était contre le fait qu'il y ait une erreur judiciaire, on peut se demander d'où viennent les influences, d'où vient cette décision du ministre qui consiste à reviser une condamnation pour meurtre, ce qui est quand même un élément important. Puis la question fondamentale qui se pose, c'est: a-t-il bénéficié donc d'un traitement de faveur, Jacques Delisle? Est-ce que lui a obtenu une révision qu'un simple citoyen condamné dans les mêmes circonstances n'aurait pas obtenue? Et ça devient une question fondamentale de confiance dans le système judiciaire, parce qu'il faut comprendre que si le ministre Lametti revise la condamnation pour meurtre, c'est quand quelque part il n'y a pas eu trop confiance dans le fait qu'il y a une condamnation dans les règles. Alors, il casse en disant qu'il y a une erreur judiciaire. Erreur judiciaire, ça veut dire erreur du système de justice. Et là, si le ministre de la Justice du Canada, c'est bien la première personne au Canada à prêcher en faveur du système de justice et en défendre la crédibilité, alors qu'ici, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce qu'en cassant le verdict de meurtre prémédité, premier degré, le ministre de la Justice du Canada estime qu'il y a eu erreur judiciaire, donc que le système a failli en quelque part. Donc, si lui n'a pas confiance dans le système dans cette affaire-là, pourquoi nous, on aurait confiance comme simple citoyen?
OK. Mes deux dernières questions par rapport à l'ex-juge Delisle. La première, lui, on n'en entendra plus parler. Là, c'est fait. Il a plaidé coupable. Il a eu sa sentence. Puis il va rester chez lui jusqu'à la fin de ses jours. Il peut pas avoir d'autres problèmes. Là.
Non. La question est réglée quant à l'ex-juge Delisle. Et je te dirais que ce que je dis ce matin, ce soir, puis ce que je l'ai dit en fin de semaine, c'est pas à l'encontre du juge Delisle comme tel. Lui, il a obtenu une révision. Tant mieux pour lui. À quelque part, les dés ont tombé en sa faveur, mais peut-être pour les mauvaises raisons, parce que c'est pas lui qui doit rendre des comptes là-dessus, je pense, parce qu'il est pas obligé de le faire, parce que c'est pas lui qui a révisé la peine. Lui a demandé une révision qu'il a obtenue. C'est le ministre de la Justice du Canada qui doit s'expliquer, à mon avis.
OK. Puis qu'est-ce qui pourrait arriver à David Lametti?
Ben, David Lametti pourrait être sommé parce qu'il ne peut pas être poursuivi parce qu'il n'a pas commis de crime, il n'a pas nécessairement commis d'illégalité parce qu'il a le droit d'écouter qui il veut. Ça devient une question plus politique, en ce sens que est-ce que l'ex-juge Delisle, qui a quand même été nommé à la Cour d'appel en 1992, à l'époque où Jean Chrétien était premier ministre du Canada, incidemment, ils ont étudié tous les deux à la faculté de droit de l'Université Laval dans les années 50. Là, Chrétien, ils sont nés à peu près à la même date. Alors, est-ce que il y a eu du fait que l'ex-juge Delisle avait bien sûr des amis dans le système, c'est un ancien juge, donc il a connu des gens dans la sphère juridique, dans la sphère politique, forcément. Est-ce que cette situation-là a pu le favoriser en permettant au ministre Lametti d'être influencé d'une quelconque façon par certains contacts que les deux auraient pu avoir en commun? La question se pose, et je pense que le seul qui peut répondre à ce genre de questions-là, c'est Lametti lui-même. Et pour ça, il faudrait qu'il soit contraint de se présenter devant un comité de la justice, parce qu'il y a un comité de la justice, un comité de sécurité publique à la Chambre des communes, il y a un comité de justice au Sénat aussi, qui peuvent tenir des audiences sur une question d'intérêt national qui intéresse le système judiciaire et qui peuvent assigner des témoins pour obtenir des informations qui permettraient d'éclaircir le processus dans certains cas, d'analyser des projets de loi et de permettre à des anciens politiciens ou des anciens ministres d'apporter des détails sur des dossiers précis.
Maître Bellemare, on change de sujet. Je regardais les articles de journaux que vous m'avez envoyés dans les derniers jours. Puis il y en a un qui a... en fait, je l'avais lu, mais je pensais pas que vous vouliez réagir là-dessus. C'est vraiment sur l'aide médicale à mourir. On parle de l'augmentation des demandes d'aide médicale à mourir. Je regarde le pourcentage ici. Le recours à l'aide médicale à mourir a augmenté de 17 % au Québec en 2023. Semblerait qu'on est une province qui est très, très, très ouverte là, à accepter l'aide médicale à mourir pour les gens qui en ont besoin. Vous dites quoi là-dessus?
Bien, je dirais que oui, on a eu des augmentations importantes. C'est peut-être pas aussi important que dans les dernières années, parce qu'on a eu des augmentations à certaines années d'une quarantaine de pourcents. On sait que l'aide médicale à mourir est disponible maintenant au Québec depuis 2015 pour des problèmes physiques et de la part de personnes qui sont en fin de vie. Il faut que les personnes consentent à l'aide médicale à mourir. On sait qu'il y a deux situations où ce n'est pas possible encore, c'est-à-dire des demandes anticipées. Ce n'est pas encore possible parce que les lois ne le permettent pas. Demande anticipée, c'est que tu dirais, par exemple, aujourd'hui, moi, Yannick Marceau, si j'ai l'Alzheimer, je veux qu'on me donne de l'aide médicale à mourir, même si je ne peux pas consentir parce que je suis gaga au moment où je suis souffrant et traité pour l'Alzheimer sévère. Tu ne peux pas faire ça. Puis si tu n'es pas capable de consentir quand tu as l'Alzheimer sévère, mais tu ne l'auras pas à l'aide médicale à mourir parce que tu ne peux pas consentir de façon anticipée. Ça, c'est le premier cas où ce n'est pas possible. Donc, tous les gens qui obtiennent l'aide médicale à mourir aujourd'hui sont des gens qui ont été capables de consentir. Donc, ils ont une bonne tête. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, de dystrophie importante, mais qui ont quand même la capacité de réfléchir et de donner un consentement. Mais toutes les questions, les maladies neurovégétatives, comme l'Alzheimer, la démence, bien, ces gens-là sont obligés de passer 5-10 ans de leur vie complètement incapables de consentir à quoi que ce soit, complètement inopérants sur le plan neurologique, parce qu'ils ne peuvent pas consentir. Le deuxième cas où ce n'est pas possible, c'est les maladies mentales, comme la dépression sévère ou la schizophrénie. C'est pas possible parce que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a décidé il y a quelques mois de reporter à 2027 son analyse, sa décision sur le fait qu'on puisse accorder à des gens porteurs, non pas de maladies physiques, mais de maladies mentales, l'aide médicale à mourir. Ça veut dire que tu serais tellement dépressif ou tellement schizophrène et des maladies, bien sûr, incurables, sévère, destiné à causer le décès ou à durer éternellement, à ce moment-là, tu pourrais consentir. Mais là, c'est pas possible. Alors, mais tous les autres cas sont possibles. Moi, je comprends les gens. Au Québec, la souffrance, on a vécu ça longtemps, tant que le petit Jésus était très présent dans nos vies. C'était quasiment un droit d'accès au paradis. On disait aux anciens que plus ils souffraient sur terre, plus ils allaient avoir une place près du bon Dieu. Hein? C'était ça, les croyances à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, on ne croit pas de la même chose. Alors, c'est ce qui fait que les gens sont portés peut-être à baisser les bras un peu plus vite, d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il y a eu au-delà de presque 2000 médecins l'année passée qui ont été impliqués dans des processus d'octroi de l'aide médicale à mourir. Ça veut dire que c'est de plus en plus accepté, non seulement chez les patients, mais chez les médecins. Et pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est sûr que les gens, quand ils voient les nouvelles et qui voient comment ça se passe dans les maisons de retraite pour les aînés, les CHSLD, la qualité des soins au Québec qui est vraiment pas à la hauteur. Les gens veulent pas vivre des années de temps dans des centres d'accueil où ils ont un bain par semaine ou deux bains par semaine. Personne ne change les couches. Des soins de santé qui sont déficients. Alors, peut-être que ça a un effet sur la décision de certains patients en fin de vie.
Non, j'en suis persuadé aussi. Je regardais une citation du docteur David Lucier, qui est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Puis lui disait, on avait moins anticipé les gens qui ont une souffrance psychologique. Donc ceux qui souffrent physiquement, mais en plus qui ont une souffrance psychologique, ces gens-là, ils n'étaient pas pris en compte au départ. Puis finalement, ça a donné lieu à plus de demandes qu'ils pensaient. Donc lui, c'est vraiment là, les souffrances psychologiques psychologique là, de ceux qui souffrent, c'est vraiment ce qui ferait la différence, selon lui, dans les chiffres au Québec. Mais cela dit, moi, je suis pour ça, l'aide médicale à mourir. Là, je pense que quand quelqu'un souffre énormément, ça vaut pas... si on a les moyens d'abréger ses souffrances, on le ferait pour des animaux parce qu'ils souffrent. Pourquoi pas le faire pour quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on apprécie, parce que cette personne-là a de la difficulté, puis elle est sur le point de décéder, mais elle souffre tellement. T'sais. On a tous vu des gens autour de nous, Maître Bellemare, qui ont souffert jusqu'à leur dernière seconde, puis on s'est tous dit, tabarouette, que c'est pas une belle mort. T'sais. Mourir dans notre sommeil ou mourir en faisant l'amour, ça, c'est une belle mort. Mais mourir dans d'atroces souffrances pendant des semaines et des semaines, ça doit être extrêmement difficile pour la personne qui le vit, mais aussi pour les proches qui sont autour, qui voient leur bien-aimé souffrir.
Oui, puis il faut comprendre, Yannick, que l'aide médicale à mourir, c'est vraiment que des médecins administrent un produit qui va causer la mort. C'est un geste concret qui consiste, de la part du corps médical, à injecter des substances qui vont causer la mort. Pour faire la différence entre ça et une personne qui décide de refuser des traitements. Moi, j'ai connu quelqu'un, un ancien client à l'Hôtel Dieu de Lévis qui avait décidé de refuser des traitements additionnels. Il était porteur d'une maladie pulmonaire obstructive importante. Il se promenait avec ses bonbonnes d'oxygène. Il n'avait pas de vie. Il n'était pas capable de marcher 5 pieds, qu'il était épuisé. Et il avait besoin de présence continuelle, très dépendant des autres personnes. Il est hospitalisé à un moment donné. On lui a dit, on peut vous donner ci, puis vous donner ça, et vous allez vivre encore plus longtemps, si vous voulez. Il a refusé. Il a dit, moi, c'est terminé, je ne veux plus ça. Et donc, on a cessé de lui administrer les médicaments, ce qui a causé la mort dans les heures qui ont suivi. Ce n'est pas l'aide médicale à mourir, c'est un refus de traitement. Et donc, si on regarde l'ensemble des cas où les gens décident, soit par l'administration de substances, ce qui constitue l'aide médicale à mourir, soit par un refus de consommer une médication qui pourrait prolonger leur vie, d'obtenir un décès rapide, ben c'est pas nécessairement la même chose. Mais si on additionne tout ça, c'est probablement supérieur aux statistiques qui ont été rendues publiques il y a 2 semaines.
Ouais, je pense que je vous apprendrai rien. Là. Avant que l'aide médicale à mourir soit disponible, il y avait de l'aide qui était disponible dans les hôpitaux quand une personne était sur le point de décéder et souffrait énormément. Les médecins prenaient la personne en charge en augmentant les doses de morphine pour qu'à un moment donné, le cœur puisse lâcher, puis la personne pouvait enfin décéder. Ça se faisait avant, c'est juste que c'était un non-dit, là. On va se le dire. L'augmentation des doses de morphine, moi, j'ai accompagné quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours dans un hôpital, puis c'était ça. Ça a été avec les augmentations de doses de morphine. À un moment donné, il y a un organe dans le corps qui a lâché en raison du fait qu'on administrait la morphine, puis la personne est finalement décédée. Mais c'est une personne qui n'avait aucune chance de survie, zéro. Là.
Exactement. Tout à fait. Alors, il y a plus de cas que ce que les statistiques officielles nous donnent, mais en même temps, il faut comprendre que l'important, c'est que ce soit le choix du patient dans tous les cas, puis que ce ne soit pas le choix d'un tiers. Mais dans les cas dont on parle, évidemment, en autant, moi, que le consentement est clair et même, je pense qu'on devrait, puis je pense qu'éventuellement, on va y arriver, on devrait permettre des demandes anticipées. Moi, je devrais pouvoir aujourd'hui dire, si j'ai telle maladie diagnostiquée à tel stade que je ne suis pas conscient, je veux aujourd'hui consentir pour le futur, si jamais ça se produisait. Si ça se produit, pas tant mieux, mais si ça se produit, je voudrais pouvoir consentir d'avance plutôt que de passer 12 ans dans un CHSLD complètement inconscient, complètement gaga, gavé et maintenu en vie par des moyens technologiques sans que ma vie n'ait quelque sens que ce soit et que ce soit irrémédiable. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Il faut consentir dans les journées proches de l'aide médicale à mourir.
Chaque lundi, on passe la soirée avec Maître Marc Bellemare, bellemareavocat.ca pour des dossiers de CNESST, DIVAC, de SAAC. Si vous voulez des réponses à vos questions, bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et... C'est les lundis avec Maître Marc Bellemare qui est au bout du fil, qui me parle en direction de... Est-ce que vous allez vers Rimouski, Rivière-du-Loup? À quel endroit vous allez
oui.
ce soir?
Oui, vers Rimouski, oui, effectivement, pour une pause demain. Alors, il faut se déplacer des fois, nous, là, les avocats, on a besoin de se rendre devant tel ou tel cours à tel ou tel endroit. Alors, quand on prend un mandat, il faut aller jusqu'au bout. Et là, bien évidemment, je suis appelé à plaider bientôt à Rimouski, ouais. au palais de justice là-bas.
Mais ça nous en 2024, Maître Bellemare, ça nous permet, avec les technologies, de quand même présenter notre émission. Je trouve ça incroyable. T'sais, souvenez-vous du temps où vous faisiez des chroniques en ondes avec Camille Sanson. Je veux dire, c'était impensable que quelqu'un puisse être dans sa voiture puis faire une émission de radio. Là. C'était même pas... Il n'y a personne qui rêvait à ça, là.
Même au téléphone, c'était pas souhaitable parce que les lignes n'étaient pas toujours fiables. Quand les téléphones portables et cellulaires ont été d'usage un peu plus généralisé, même là, on hésitait à utiliser ces téléphones-là parce que là, il y avait beaucoup de fritures sur la ligne, le contact est incertain. Alors, c'était le téléphone à roulette avec la ligne dure, comme on l'appelait, ou bien en studio. Ben, moi, j'aimais beaucoup mieux être en studio. Aujourd'hui, c'est moins nécessaire grâce aux moyens technologiques, comme tu le dis, qui sont beaucoup plus perfectionnés. Mais avec Camille Sanson, c'était dans les locaux de CKCV. J'ai commencé à faire ça en 1982. CKCV, qui était dans la tour de la Banque de Montréal, à Place du Ville, au dernier étage, avec l'antenne magnifique qu'il y avait là. Fallait monter jusqu'au studio. Après ça, j'en ai fait avec M. Sanson, avec André Arthur aussi, pendant un certain temps, à CHRC, le matin. Et après ça, c'était Mme Giguère à CGRP. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais Mme Giguère, elle faisait ça au téléphone, elle, parce qu'elle était à l'île d'Orléans, à la maison. Son studio était installé à la maison.
Ah, ouais.
On s'en souvient, parce que, ben oui, on entendait son chien japper à tout bout de champ, parce qu'elle avait son chien avec elle, alors qu'elle était... Il y avait installé une espèce de studio à l'île d'Orléans. Fait que moi, je ne suis jamais allé là, évidemment. Donc, ça se faisait par téléphone. Tout se faisait par téléphone avec Mme Giguère dans les années 90.
Est-ce que vous, là, je ne veux pas vous vieillir, mais avez-vous connu les téléphones à cornet?
Non.
Vous n'avez pas connu ça?
Non. Moi, j'ai connu les téléphones. Quand j'étais petit gars, là, en 1900, dans les années 60, moi, je suis né en 56, dans les années 60, à Saint-Hyacinthe, le téléphone chez nous, c'était 774-5883. Il n'y avait pas de 450, puis il n'y avait pas de 514 avant. On pouvait, dans une ville, signaler simplement 5 chiffres, comprends-tu?
Oui.
Pour avoir accès à des gens dans la même ville. Et je pense qu'à Québec, c'est la même chose. On signalait, dans les années 60, 5 chiffres, c'était suffisant. À un moment donné, ils ont dit, ben là, il faut mettre un 450 avant. Ah ben là, c'est compliqué. On n'aimait pas ça parce qu'on rajoutait 3 chiffres. Puis même si c'était 3 chiffres faciles à retenir, il fallait quand même retenir ces 3 chiffres-là plus les 5 autres. Alors, ça devenait plus compliqué. Puis à un moment donné, ben ils ont commencé à mettre le 1. Puis donc, 450, c'était à Saint-Hyacinthe, 514, c'était à Montréal, 418, c'était à Québec, 819, c'était à Sherbrooke ou à Trois-Rivières. Alors qu'aujourd'hui, bien, on a rajouté des 438 puis des 581, mais évidemment, il y a 50 ans, Yannick, c'était pas comme ça. Mais on signalait 4 chiffres, 5 chiffres, puis on avait accès à quelqu'un dans notre ville. Alors, ça coûtait pas une scène parce que c'était un appel local, mais les interurbains, il fallait les payer à la pièce. À chaque fois que tu signalais le 1, 514, 1450, 1418. Mais là, il fallait que tu payes, puis c'était à la durée de l'appel, alors qu'aujourd'hui, ben tout se fait selon des forfaits, puis c'est beaucoup plus économique.
Oui. Donc, vous avez connu vous n'avez pas connu les téléphones à cornet, mais vous avez connu les téléphones à cadran, par exemple.
Oui, les téléphones à roulette avec avec le fil en tire-bouchon, là,
ouais,
sûr, absolument. Puis là, c'était ça, mais... Il y avait quand même une certaine qualité de son, là. Ça paraissait pas qu'on était loin nécessairement.
Je me souviens encore du bruit que la roulette faisait quand elle revenait à sa position, le
ouais, c'est ça, tic tic tic, ouais. Absolument.
Ouais, ça rappelle des beaux souvenirs. Maître Bellemare, est-ce que un employeur peut surveiller l'ordinateur qu'il m'a prêté lorsque je fais du télétravail? Est-ce qu'il a le droit de surveiller ce que je fais avec son ordinateur pour voir, exemple, si je travaille ou si je suis en loisir ou si je suis en communication avec des amis?
Oui, tout à fait. Et il y a un jugement du tribunal administratif du travail qui a été rendu il y a quelques semaines, qui a maintenu la décision d'un employeur de congédier une employée qui avait utilisé à des fins personnelles l'ordinateur du bureau à la hauteur de quelques 20% du temps. Et l'employeur avait installé un système de vérification du temps qui était consacré à des fins professionnelles versus du temps qui était consacré à des fins personnelles. Et ce logiciel-là a été considéré comme étant légalement utilisé par l'employeur, puisque l'ordinateur constitue son outil de travail. Et en preuve, ça a été déclaré admissible et la personne a été congédiée. Pourquoi? Parce que ça a été assimilé par le juge à du vol de temps. Alors, on sait bien que si tu dis que tu es au travail de 9 h à 5 h, puis que tu arrives à 9 h 15, puis 9 h 30, puis tu mens sur l'utilisation du temps consacré à l'employeur, ça s'appelle du vol de temps. Et c'est comme voler un stylo, c'est comme voler un meuble, c'est comme voler une pile de papier pour faire des photocopies chez vous, c'est comme voler un livre. On sait que le principe qui vole un œuf, vole un bœuf, s'applique, à savoir qu'il n'y a pas de petit vol. Même si tu voles quelque chose qui est en quantité minime, un objet qui n'est pas très coûteux au plan financier, même si c'est juste un stylo ou un crayon qui coûte 2 piastres, c'est quand même un vol. Et c'est sûr que ça ne justifiera pas nécessairement peut-être une condamnation de type congédiement, mais moi, je connais des juges qui ont déjà condamné des employés qui avaient volé des gâteaux dans des épiceries à un congédiement parce qu'ils avaient considéré que la grosseur du vol ou l'importance du montant en jeu n'avait pas d'importance. Ça peut en avoir au niveau du code criminel, parce que dans le code criminel, selon que tu voles un objet de telle ou telle valeur, ça va avoir un impact sur la peine. Mais au niveau du congédiement pour le vol de temps, on ne peut pas nécessairement se fier là-dessus. Alors oui, ça a été jugé admissible, cette preuve-là. L'employeur a le droit de le faire. Et le congédiement a été validé par le tribunal du travail dans un cas semblable il y a quelques semaines. Oui.
Je me souviens pendant la pandémie, ou peut-être un petit peu après la pandémie, il y avait eu un article concernant des employés d'Hydro-Québec qui avaient le droit de faire du télétravail à la maison. Et certains de ces employés-là avaient mis des logiciels à l'intérieur de leur ordinateur qui faisaient bouger la souris. Les logiciels d'Hydro-Québec détectaient que l'employé travaillait parce que la souris bougeait. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des employés qui s'étaient dotés de logiciels qui faisaient bouger la souris. Donc, Hydro-Québec se sont trouvé un logiciel qui détecte les logiciels qui font bouger la souris. C'est rendu complètement fou, les gens, à quel point ils veulent plus travailler. Ils veulent être payés, ils veulent plus travailler, puis les employeurs doivent se doter d'outils qui vont faire en sorte qu'on va trouver les petits crosseurs. Et de mémoire, il y avait certains employés qui avaient eu des suspensions à Hydro-Québec et certains avaient eu des congédiements aussi. Quand on est rendu à se doter d'un outil qui va faire en sorte que notre souris va bouger quand on ne travaille pas, pour dire à mon employeur, oui, je travaille, je trouve que ça va loin en sacrifice, là. Tu sais, on peut plus avoir confiance en personne maintenant, là.
Le vol de temps, ça a toujours été extrêmement difficile à évaluer et à prouver. Autrefois, il y avait des cartes de punch, hein. C'est sûr que si tu punchais à l'usine, puis que tu allais t'acheter des souliers ou tu allais t'acheter des chandails ou des bobettes sur ton temps de travail, ben on pouvait le voir à condition que tu aies quelqu'un qui te dénonce ou que l'employeur puisse te retrouver face à face au magasin pendant que normalement tu avais punché, des choses comme ça. Mais c'était des cas extrêmement rares parce que les voleurs de temps sont des gens assez intelligents généralement, c'est pas des imbéciles, puis ils s'organisent pour se faire pogner, c'est la moindre des choses. Mais aujourd'hui, avec le télétravail, c'est devenu compliqué. Puis pendant la pandémie, il y avait beaucoup de gens qui étaient en télétravail. Et moi, ça a toujours été ma conviction profonde, là. C'est une conviction, c'est pas un fait, c'est pas une preuve. Mais j'ai toujours pensé que le gouvernement s'était fait un peu avoir, puis beaucoup d'employeurs aussi, parce que le télétravail, c'est écoute bien, là, c'est tout ce qu'il faut. Si ce n'est pas vérifié par un logiciel ou par un système de contrôle, il n'y a aucun moyen autre que la parole de l'employé pour garantir que le travail a été fourni. Alors, c'est ça. Alors, à moins que l'employeur... Puis si c'est ton ordinateur à toi, puis que tu travailles à la maison, ça devient encore plus difficile parce que ton ordinateur, c'est comme ta maison privée. C'est pas accessible, à moins qu'il y ait un mandat de perquisition, puis que ce soit... Puis c'est pas toujours, technologiquement parlant, possible de retracer tous les détails du temps qui a été consacré à ci et à ça. Puis dans bien des cas, tu seras pas nécessairement capable de savoir à qui l'employé a eu accès pendant ses heures de travail. Comment tu fais pour savoir s'il a eu accès à une agence de voyage pour planifier ses prochaines vacances ou s'il a eu accès à quelqu'un de privé? Puis c'est encore pire, comment tu fais pour savoir quel genre de conversation ils ont eu même entre employés? Parce que si tu communiques avec un de tes collègues de travail, puis que tu parles de la dernière game de hockey, puis de la prochaine game que tu vas faire dans ta ligue de garage, comment vérifier si c'est pas une discussion dont le contenu portait sur le travail plutôt que sur des activités personnelles? Alors, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, les employeurs peuvent avoir recours à des logiciels qui vont leur permettre d'avoir des détails. Mais je peux te dire que c'est maintenant accepté. Il y a une jurisprudence là-dessus. Il y a des jugements de cour qui l'ont validé. Et s'il y a un congédiement, le congédiement en conséquence peut être accepté aussi, compte tenu qu'il s'agit d'un vol de temps qui est assimilable à un vol de biens.
Ouais. J'ai un ami qui est dans le secteur des techs. Il a son entreprise dans le secteur des techs. Et lui, à même son entreprise, il y a un évaluateur de travail. Donc, quand il y a un travail qui est demandé, ils sont capables de donner un forfait à un employé en lui disant, ben regarde, toi, ton salaire, c'est de 2 000 $ par semaine, exemple. Ben tu vas avoir telle tâche à accomplir et tu vas avoir tel travail à nous redonner vendredi après-midi vers 16 h. Puis, tu dois rentrer dans ton temps qu'on t'octroie. Puis lui, c'est la meilleure façon pour lui de pas toujours penser à ses employés. T'sais, ils me volent-tu du temps ou ils ont-tu de la misère à rentrer dans le temps? Lui, il y a un donneur de job à même son entreprise qui évalue l'ampleur de la tâche. Bien sûr qu'il peut avoir de la révision une fois de temps en temps, c'est ce qu'il me racontait, si l'employé a besoin d'un petit peu plus de temps ou si l'employé a fini avant. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que pour les employés qui finissent avant, il paye quand même à forfait le montant qui était donné au départ, c'est-à-dire 2 000 $ par semaine. Mais si les gens ont toujours besoin d'un petit peu plus de temps, il est capable de voir quel employé prend plus de temps. Donc, il y a une évaluation de performance aussi qui est faite à ce moment-là. Mais ils vont vraiment à forfait sur la job qu'il y a à faire. Puis j'ai l'impression que ça, dans 10, dans 20, dans 30 ans, ça va être très répandu, ce genre de modus operandi. Les travailleurs autonomes, c'est ça, Maître Bellemare, t'sais, sont payés à forfait. On leur demande de faire un travail X, on les surveille pas nécessairement, puis ils rendent le travail, puis là, ben ils obtiennent leur paye. Fait que probablement que dans 10, 15, 20 ans, ça va être tout ça. On va tous être des travailleurs à forfait, là.
Oui, c'est possible. C'est possible, mais tu sais, toutes les vérifications, que ce soit des travailleurs à forfait ou à salaire, ou bon, c'est sûr que dans certaines circonstances, tu as plus de liberté dans ton contexte de travail, tu n'es pas obligé de rendre des comptes. Mais quand tu es salarié, il faut que tu puisses justifier le temps que tu consacres puis donner à ton employeur le temps que tu dis donner parce que tu es payé à l'heure ou à la semaine. Mais même si tu es payé à la semaine, tu dois donner un certain nombre d'heures puis il faut que tu puisses le justifier tout le temps. Maintenant, c'est possible d'installer des logiciels sur les outils de travail de l'employeur, mais ça ne veut pas dire que c'est le Far West et que l'employeur a le droit de fouiller partout. Il n'a pas le droit de fouiller ton téléphone. C'est ta vie privée. Il n'a pas le droit de fouiller ton ordinateur personnel. Il n'a pas le droit d'obtenir ton adresse IP à travers les fournisseurs auxquels tu aurais eu accès. On l'a su très, très récemment quand la Cour suprême a rendu un jugement là-dessus en disant que l'adresse IP que la police même pourrait obtenir à travers les fournisseurs pour savoir avec qui tu as communiqué, s'il y a eu des fraudes, n'est pas accessible à moins qu'il y ait un mandat de perquisition qui te permette de l'obtenir. Alors, ça demeure un monde, là, Internet, le monde du numérique, ça demeure un monde extrêmement complexe où on n'a pas le droit de faire n'importe quoi parce que les droits de la personne s'appliquent, la confidentialité est quand même un élément important. Puis, il ne faut pas non plus que les employeurs aient accès à n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. L'employeur, ses intérêts ne sont pas nécessairement compatibles avec les intérêts de l'employé, qui demeure quand même une personne distincte avec des droits fondamentaux. Alors, c'est pas possible de faire n'importe quoi, mais s'il y a vol de temps puis que c'est prouvé, ben là, watch out.
Les deux derniers sujets qu'on va aborder, Maître Bellemare, c'est un peu plus léger. Quand il est question de pourboire, moi, pour avoir travaillé très, très, très longtemps dans la restauration, pratiquement la moitié de ma vie, un métier que j'ai adoré, la restauration, parfois même je m'en ennuie là, certains soirs en me disant « Bon Dieu, que c'était le fun de faire du social, s'amuser, faire rire les gens, les divertir. » Je veux parler de pourboire avec vous. Est-ce que vous avez toujours pas mal tout le temps de donner 15%?
Oui, d'habitude, c'est un peu ça. Ouais. Des fois, c'est un petit peu plus. Puis des fois, c'est zéro. Ça dépend. Des fois, quand je vais, par exemple, chercher une chemise que j'ai laissée chez le nettoyeur à sec, je ne suis pas porté à mettre du pourboire. Je trouve que des fois, il y a un peu d'exagération, même dans certains services publics. J'ai vu il n'y a pas longtemps la Société des alcools du Québec, la SAQ, un petit à côté du cash, là, à côté de l'écran. J'ai vu un petit pot là où il y avait des sous. Écoute, la SAQ, alors je me dis, là, c'est quoi cette affaire-là? C'est quand même, la SAQ, c'est pas pareil gouvernemental, ça. Je trouve que dans certains cas, il y a un peu d'exagération, mais ça, chacun sa liberté d'en donner.
Oui, et c'est pas des employés qui sont rémunérés à pourboire, mais je veux rester avec les employés qui sont rémunérés à pourboire. Moi, ce que je trouve hallucinant présentement, c'est que dans certains restaurants, le pourboire commence à 18%, le pourboire suggéré est à 18%. Ensuite, vous avez du 20% puis du 25%. Et si vous voulez donner un genre de 15% traditionnel, ben vous devez aller dans autre et là, rentrer vous-même le fameux 15%. Je sais pas pourquoi on en est rendu là, Maître Bellemare, mais saviez-vous qu'il y a une étude qui a été faite à l'Université du Kentucky concernant le pourboire et l'ajout de petits emojis qu'on peut avoir, exemple, quand on écrit des textos ou encore quand on est sur Messenger, le fameux bonhomme sourire. On a fait une étude là-dessus et on a découvert que lorsqu'un employé de la restauration ajoute un petit bonhomme sourire à la facture, les clients sont portés en moyenne à donner 11% de plus qu'est-ce compté en pourboire.
Wow! C'est bon. Ouais. Allez, bon pour les employés.
Vous qui êtes avocat, allez-vous mettre ça sur votre facture, un petit bonhomme sourire? Je sais pas.
Ouais, mais non. Ben, si t'as la liberté de payer cash, t'évites tout ça parce que t'es capable de compter, c'est plus facile. Mais sinon, si tu payes par carte, bien évidemment, ou par téléphone... Je sais pas. Je trouve qu'il y a de la contrainte là-dedans, puis ça me gosse. T'sais. Le pourboire, c'est quand même une cote de satisfaction, en principe. C'est sûr que c'est déjà gênant de ne pas en laisser pantoute quand tu vas dans un commerce ou un restaurant, même si tu es servi en cabochon, puis même si le serveur a l'air bête, puis même si ta soupe est frette. Là. Mais je trouve qu'il y a du tordage de bras là-dedans, puis ça m'indispose grandement.
Oui, vraiment, mais en même temps, je sais pas, moi, quand j'ai commencé dans la restauration, on nous disait un bon service, c'est 10%, un excellent service, c'est 15%, et quand il y a de l'alcool, ben on tourne autour de 12, 13, 14%. Parce que l'alcool faisait monter les factures dans le temps, elle le fait toujours monter aujourd'hui. Mais là, de voir qu'on a du 18, du 20 puis du 25 %, je me dis, OK, mais là, ces gens-là, je comprends qu'ils n'ont pas énormément des gros salaires, mais ils vont en faire plus que moi. Là. J'ai plus moyen, moi, de donner 25 % de pourboire quand je vais au restaurant. Je vais de moins en moins au restaurant, justement, en raison de l'augmentation des prix. S'il faut en plus que je donne 25 % de pourboire, ben ça va être encore plus long avant que j'y retourne au restaurant.
Oui, c'est ça. Puis les restaurateurs devraient le savoir, parce que s'ils ont des machines comme ça qui imposent des pourboires minimaux de 18 % puis que la pression est très forte sur le pourboire, bien, non seulement ils vont perdre des clients parce que les gens risquent d'aller ailleurs ou c'est une méthode différente, mais les gens vont finalement être dissuadés parce que quand tu vas un simple menu du jour, le midi, puis tu te retrouves avec une facture de 60 piastres par personne, ça commence à être pas mal élevé, mais c'est de plus en plus le cas dans la région. Puis je trouve que ça ne joue pas en faveur des restaurateurs. Il y aurait peut-être une politique à reviser de ce côté-là. Au fond, le fait que les gens aient moins au restaurant aujourd'hui, et pas nécessairement uniquement à cause de l'augmentation des prix, mais à cause de la façon dont les menus et les prix sont établis par les restaurateurs eux-mêmes à travers tous les aspects numériques dont on vient de parler, là, qui favorisent une flambée des prix à travers le pourboire. Parce que quand tu es rendu à 20-25 % de la facture, puis souvent c'est la facture taxée, en pourboire, bien là, tu atteins quasiment des 30 % dans certains cas. Là. Ça a comme pas d'allure.
On termine avec ça, Maître Bellemare. C'est Pâques qui s'en vient. Hein. Est-ce que l'employeur est obligé de nous donner notre congé de Pâques? Si oui, il le fait de quelle façon? Sinon, il doit compenser de quelle façon?
Bien, écoute, Pâques, là, il y a des congés fériés vendredi saint puis lundi de Pâques. Alors, dans les congés fériés du Québec, là, c'est les deux dates là, qui sont notées. Donc, on s'en va allègrement vers ça. C'est pas la fin de semaine prochaine, mais l'autre après, le long congé. Alors, l'employeur est obligé de te donner un congé au moins, un des deux. Et s'il ne donne pas un des deux, il doit te payer l'équivalent en salaire. Puis là, il y a une question de calcul aussi, un vingtième des derniers mois, etc. Mais retiens qu'il doit te donner ou bien une journée de congé de plus ou bien te payer en argent l'équivalent du salaire du congé qu'il ne te donne pas parce qu'il te somme de travailler pendant cette journée-là. Alors, la meilleure façon d'avoir des explications, c'est d'aller voir sur le site de la CNESST, qui est la Commission des normes d'équité, santé, sécurité du travail, qui est la même CNESST dont on parle souvent, qui s'occupe des accidentés du travail. Alors, c'est elle qui gère maintenant toute la question des normes du travail. Si vous allez sur le site, ou sur le site d'Éducaloi aussi, Éducaloi, c'est important. Vous cliquez Éducaloi sur Google. Vous allez voir, il y a une section précise qui touche les congés de Pâques et qui vous permet de savoir comme employé à quelle journée puis à quelle compensation financière vous pourriez avoir droit à l'occasion du congé qui s'en vient.
OK. Mais si je travaille pendant le congé de Pâques normalement, puis je sais que c'est un férié, est-ce que je suis à salaire régulier ou je suis à temps et demi, je suis à temps double?
T'es à salaire régulier. Et l'employeur doit te donner ou bien une compensation financière ou bien une journée de congé additionnelle. C'est ce qui est prévu dans la loi et c'est ce qui est prévu sur les sites là, dont je viens de parler. La loi sur les normes du travail.
OK. Puis vous, quand vous allez travailler à Pâques, là, ils vont-tu compenser pour votre excellent travail, Maître Bellemare?
Moi, c'est sûr que le vendredi saint, je travaille. C'est toujours le lundi de Pâques qui est fermé chez nous. Mais le vendredi saint, ça travaille tout le temps. Puis, à part le gouvernement du Québec, la plupart des employeurs restent ouverts le vendredi saint. C'est plutôt le lundi suivant que c'est congé. C'est un peu la tradition. Bien qu'il y a plusieurs employeurs, au-delà du gouvernement du Québec et de ses ramifications, dans le privé, il y a de plus en plus d'employeurs qui donnent les deux jours. Ça dépend. C'est une culture qui s'installe tranquillement. Mais je sais que dans le privé, il y a beaucoup, notamment de bureaux d'avocats qui sont fermés, autant le vendredi que le lundi de Pâques. Ce ne sera pas le cas chez nous.
Aimez-vous mieux le vendredi de congé ou le lundi de congé?
Ben, j'aime mieux le lundi, moi, parce que le vendredi, on est quand même sur un air d'aller. On est quand même au mois de mars cette année, encore. Le mois de mars, c'est un mois où c'est encore l'hiver, mais en principe, on est supposé être au printemps, mathématiquement parlant. Mais c'est encore un mois important. Le mois de mars, on n'est pas en juillet, on n'est pas à Noël, là. Alors, c'est un mois où il y a quand même beaucoup de travail. Puis, le vendredi de saint, nous autres, on travaille tout le temps.
Bon, vous êtes des grands travailleurs, des très grands travailleurs. Nous aussi, on sera là sur les zones de boulevard le vendredi.
Ah bon,
le fameux vendredi saint. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de bons moments dans le secteur de Rivière-du-Loup parce que je sais que vous êtes là pour les prochaines heures. Ça a été un plaisir. Puis, on se rejase lundi prochain.
Parfait. Bonne soirée, bonne semaine tout le monde.
Merci. Merci. Au revoir.
Bye.
Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les zones de boulevard et je vous dis à demain, 11h, pour ce qui est de Mars sous le midi. Merci d'avoir été là.